Vous écoutez
RMC.
8h01 sur RMC, soyez tous les bienvenus.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Image impressionnante ce matin, des incendies toujours menaçants en Gironde, dans les Landes, dans le Var aussi, où plus de 40 000 évacuations ont été ordonnées au total. En Gironde, l'évacuation du Cap Ferré a commencé, on sera sur place. Et dans les Landes, les vacanciers doivent aller se réfugier sur la plage. Nous sommes également sur place ce matin sur RMC. On va vous raconter dans le journal l'indignation à Marseille, où un concert du chanteur Amir a été annulé après un appel au boycott de la part de militants pro-palestiniens. Et nous serons également dans les Alpes, à quelques heures de la première des deux étapes du Tour des France qui arrive à l'Alpe d'Huez.
L'image est saisissante ce matin en Gironde. Habitants et vacanciers évacuent en ce moment le Cap Ferré.
En raison toujours de l'incendie qui a brûlé 6400 hectares de forêt, selon le tout dernier bilan des pompiers. Il y a quasiment 2000 hectares de forêt en plus qui ont brûlé durant la nuit. Et c'est donc pour cette raison que l'ordre a été donné très tôt ce matin d'évacuer toute la presqu'île du Cap Ferré par la terre, mais aussi par la mer. Ça a déjà commencé. Vous y êtes en direct ce matin pour RMC, Jean-Wilfried Vorkes. Vous assistez en ce moment à cette évacuation de milliers de personnes.
Oui, c'est ça, évacuation, vous l'avez dit, par voie maritime avec des bateaux depuis 7 heures tout à l'heure. Évacuation par la route également, au-dessus, là, sur la départementale 106, je suis à proximité, une départementale en direction de Bordeaux. Il y a des files de voitures sur plusieurs kilomètres qui roulent au pas. Évacuation également dans la commune de Lège, où nous étions ce matin, du Porge et d'autres communes situées à proximité de la presqu'île. Tout se fait, Quentin, je dirais, dans le calme ce matin. Il n'y a pas de panique. Beaucoup avaient anticipé d'ailleurs cette évacuation. Le feu progresse sur place. Le vent s'est levé. Le vent d'ailleurs souffle très très fort. Dans le ciel, il y a très souvent des poussières de cendres. Et l'air est quasiment irrespirable depuis une heure ou deux ici, avec une fumée qui est très très toxique.
Jean-Wilfried Vorkes, on l'entend avec vous, c'est pour ça que vous portez un masque ce matin, Jean-Wilfried Vorkes pour RMC, en direct donc de Gironde. Les évacuations par bateau qui ont déjà commencé, il y a 400 personnes qui sont arrivées là il y a quelques minutes à Arcachon, c'est ce que fait savoir la mairie de cette cité balnéaire. Alors pourquoi cette évacuation de toute la presqu'île du Cap Ferré? Pourquoi est-ce qu'elle a été décrétée? Eh bien écoutez la réponse il y a quelques minutes sur RMC du maire d'Arès, Xavier Danet.
On ne peut pas, sur cette presqu'île qui a qu'un accès, ne pas prévoir, ne pas anticiper. C'est un premier point, c'est aussi pour permettre de rassurer la population. C'est pas parce qu'on évacue que tout à l'heure leur maison va brûler. On anticipe parce qu'on ne peut pas se permettre de le faire dans l'urgence. On a une presqu'île qui est toute en longueur et il faut le faire dans la fluidité, dans le respect des uns et des autres pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage, qu'il n'y ait pas d'accident et que tout le monde puisse évacuer tranquillement.
Alors ces évacuations s'ajoutent aux 20 000 qui avaient déjà été effectuées depuis 48 heures. Certains vacanciers sont accueillis à Bordeaux, carrément au parc des expositions. Tout prête à croire que ce feu là de Gironde est parti d'un débroussaillage effectué pour le compte d'Enedis au beau milieu de la Pinède. Et les informations nous arrivent là à la seconde, à l'instant, bilan de la préfecture de Gironde. Le feu a brûlé 8700 hectares de forêt depuis 3 jours. C'est le tout dernier bilan des pompiers. Ça veut dire qu'il a doublé de surface durant la nuit.
Et on sera juste après le journal justement avec le maire de Bordeaux qui accueille certains des évacués de cette zone du bassin d'Arcachon. L'autre image marquante de la matinée, c'est l'évacuation de 23 000 personnes ces dernières heures dans le département des voisins des Landes.
Alors là, c'est en raison du feu qui a pris hier après-midi à Biscarrosse, sans doute à cause d'un camion tombé en panne sur la route qui traverse la forêt. 2500 hectares de forêt ont déjà brûlé. Léonie Guilbeault, vous êtes en direct de ce département des Landes pour RMC ce matin, où les vacanciers ont reçu la consigne d'aller se réfugier à la plage.
Oui, je suis avec les évacués regroupés sur le fond de mer dans un restaurant de plage à Biscarrosse. Une partie des tables ont été repoussées dans un coin de la terrasse et au centre des matelas de sol, des lits de camp où les évacués attendent enroulés dans leur couverture de survie. C'est plein à craquer ici. Ça continue d'affluer massivement. On sert le café. Les visages sont vraiment très inquiets, tendus, les yeux fatigués après une nuit d'attente. Oreillers, pyjamas, sacs de fortune, animaux sous le bras, les habitants et les vacanciers ont dû évacuer dans l'urgence, comme Aurélie et sa famille, originaire de Niort, en vacances au camping de Mayotte. Ils figurent parmi les 23 000 personnes évacuées des Landes.
On a vu la fumée, on s'est posé des questions. Et puis, bah, à 3h30, c'est la police qui est arrivée dans le camping pour nous dire qu'il fallait évacuer. Mais bon, après, voilà, on va bien, on voit bien que tout est mobilisé. Voilà, c'est triste pour les gens qui sont là, pour toute la forêt qui brûle, quoi. C'est impressionnant. On a vu sur la route, c'est quand même assez impressionnant.
Un ciel apocalyptique ici, c'est vraiment surnaturel. Tout est rouge de feu avec un panache de fumée épais qui se dirige vers nous, poussé par un vent assez fort quand même. On entend régulièrement aussi les sirènes de pompiers. Au loin, 600 sont toujours mobilisés dans le département. Les Canadairs reprennent leur vol au moment où je vous parle d'ailleurs. Mais malgré tout ça, pour le moment, le feu n'est pas encore fixé et les prochaines heures vont être décisives.
Et on parle du plus gros feu, hein, Léonie Guilbeault, en direct ce matin des Landes, du plus gros feu depuis une trentaine d'années dans ce département. Et comme en Gironde, hein, dans les Landes, les pompiers parlent d'un feu apocalyptique et d'une situation dantesque.
Il y a cette situation dans le sud-ouest, la Gironde, les Landes, et puis il y a toujours le sud-est de la France. Il y a toujours le feu dans le Var ce matin.
Alors celui-là, dans les montagnes, autour des villages pittoresques provençaux, hein, où 2700 hectares de forêt ont brûlé depuis le début de la semaine. Feu qui menaçait encore hier soir les villages de Corins et de Cotignac. Il y a eu de nouvelles évacuations dans la soirée et on déplore 25 maisons détruites par les flammes. Pendant ce temps-là, à Paris, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, fait savoir qu'il suit la situation et qu'il prendra la parole, là, tout à l'heure, à 9h. Emmanuel Macron lui a demandé des renforts européens en activant ce qu'on appelle le mécanisme de protection civile au sein de l'UE. Concrètement, ça veut dire que là, des moyens aériens vont arriver en provenance du Portugal, de Croatie, de Slovaquie, mais aussi de République tchèque.
Et on y revient bien sûr juste après le journal. On attend tous vos témoignages aussi au 32-16. Si vous êtes dans ces zones évacuées, si vous êtes en vacances, que ce soit dans le sud-ouest ou dans le sud-est, si vous connaissez des pompiers parmi vos proches, bien sûr, vous nous appelez 32-16 pour témoigner. On lit tous vos messages 06 12 424 424 sur le WhatsApp RMC.
Ces feux qui interviennent au beau milieu donc des vacances avec beaucoup de monde attendu encore sur la route, notamment dans le sud-ouest où la journée est classée rouge, c'est pareil pour le nord-est et orange partout ailleurs au niveau national. Mauvaise nouvelle d'ailleurs, tiens, pour ceux qui vont prendre la route aujourd'hui pour le pouvoir d'achat, le prix du baril de pétrole qui repasse la barre des 100 dollars sur les marchés financiers, c'est en raison, vous vous en doutez bien, de la situation au Moyen-Orient où les frappes ont repris depuis maintenant deux semaines.
8h08 sur RMC, il y a de l'indignation ce matin à Marseille.
Oui, vous connaissez Amir, le chanteur franco-israélien. Il devait donner un concert à Marseille dimanche, concert gratuit même, mais ce concert a été annulé. On l'a appris dans la soirée après un appel au boycott émanant d'un collectif pro-palestinien. Quelques jours seulement après l'interruption d'un concert à Grenoble pour les mêmes raisons. Pierre Bazin en direct ce matin pour RMC. Les organisateurs en fait à Marseille ne veulent pas prendre de risques.
Oui, dans un message posté sur les réseaux sociaux, la direction du centre commercial Les Terrasses du Port, qui devait accueillir le chanteur Amir, a préféré anticiper pour la sécurité des artistes, du public et des équipes. Le concert est annulé. Une décision qui fait donc suite à plusieurs appels au boycott depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, notamment de la part du collectif Union Palestine Marseille. L'organisation s'est félicitée de cette annulation, évoquant, je cite, une victoire de la mobilisation populaire. L'entourage du chanteur, de son côté, déplore cette décision. Amir est ciblé uniquement en raison de sa judéité, affirme le directeur de son label. Le conseil de représentation des institutions juives, le CRIF, a dénoncé une chasse aux artistes juifs et aux engagés contre l'antisémitisme. Fin de citation.
Bon, et puis on est au matin de la bagarre finale sur le Tour de France. Il reste deux étapes dans les Alpes avant l'arrivée à Paris dimanche. Et les deux étapes à venir arriveront toutes les deux à l'Alpe d'Huez, ce col mythique que le Tour de France n'a plus emprunté depuis maintenant 4 ans. Mais alors Maria Azé, vous commentez tous les jours la course sur la moto RMC. Et on se demande ce matin ce qui se passe avec l'équipe du maillot jaune Tadej Pogacar, équipe qui a l'air de finir le Tour sur les rotules.
Oui, les coéquipiers du maillot jaune ont beaucoup roulé hein, depuis le début du Tour de France et les efforts commencent à se payer. Tout a commencé avant-hier. Adam Yates, fidèle lieutenant de Tadej Pogacar, souffre d'une gastro et a du mal à terminer l'étape. Pour ne pas contaminer le reste de l'équipe, il est placé à l'isolement. Mais hier, pour l'arrivée à Orcières-Merlette, c'est l'hécatombe. L'Américain Brandon McNulty abandonne à 50 km de l'arrivée à cause de problèmes respiratoires, tandis que Tim Wellens et Florian Vermeersch ont passé l'étape à l'arrière, pas en forme. Du côté du AE, on assure que le maillot jaune du Tour de France, Tadej Pogacar n'est pas concerné par ce virus, sauf qu'hier le Slovène portait un cuissard noir et non un jaune comme depuis le début du Tour de France, ce qui interroge sur de potentiels problèmes gastriques. Une très mauvaise nouvelle pour l'équipe UAE qui aura besoin de ses coureurs pour affronter les deux arrivées au sommet de l'Alpe d'Huez.
Et c'est vous qui allez nous faire vivre ces deux étapes à venir, Maria Azé, sur la moto RMC. Au départ de Gap aujourd'hui, en repassant par la route Napoléon, ça promet de beaux paysages. On espère qu'il y aura de la bagarre. Hier, les favoris ne se sont pas attaqués à Orsier Malette, où c'est l'équatorien Richard Carapaz qui a gagné l'étape.
C'était le journal de Quentin Vinet sur RMC. Il est 8h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, on retourne en Gironde. On est en ligne avec le maire de Bordeaux. Bonjour Thomas Cazenave.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes en train vous-même d'accueillir sur la ville de Bordeaux un certain nombre de personnes évacuées du Cap Ferret. Ce sont des milliers de personnes qui sont en train de fuir la zone des incendies à la fois par la route et par bateau à travers le bassin d'Arcachon. On est avec vous en direct dans un instant et les auditeurs bien sûr peuvent continuer à témoigner au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
8h14, vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story et on continue de suivre bien sûr en direct la situation dans le sud-ouest et notamment dans le département de la Gironde. 8700 hectares partis en fumée ces dernières heures en Gironde au nord du Cap Ferret. La presqu'île menacée par les flammes qui doit évacuer, qui a reçu une alerte au cœur de la nuit pour évacuer l'ensemble de la presqu'île très touristique du Cap Ferret. Quand on dit 8700 hectares, cette surface a doublé en l'espace de quelques heures entre hier soir et ce matin. Et ce sont désormais des évacuations par la route et par la mer qui continuent. Plusieurs centaines de personnes qui partent par bateau de cette presqu'île du Cap Ferret. Et certains vont se réfugier jusqu'à Bordeaux. Bonjour Thomas Cazenave.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Bordeaux et vous avez mis en place depuis hier soir des dispositifs pour accueillir ces habitants, ces vacanciers qui fuient le Cap Ferret.
Oui, même depuis hier 5h du matin, parce que les évacuations, elles ont commencé dès hier. Et donc, on a ouvert le parc des expositions à Bordeaux avec une capacité d'accueil de 1000 personnes. On a reçu hier déjà 700 personnes avant l'évacuation de la presqu'île. On a une centaine de personnes qui ont passé la nuit au sein du parc des expositions. Nous avons installé des lits, livré des repas, installé des douches pour permettre d'accueillir toutes celles et ceux qui doivent évacuer le temps qu'ils décident soit de rentrer chez eux, soit de trouver une autre solution d'hébergement. Donc on a préparé une plus grande capacité parce qu'on a anticipé avec les services de l'État et notamment de la préfecture que si toute la presqu'île devait être évacuée, il faudrait une solution de repli. Et c'est ce que nous avons préparé depuis hier. Et là, nous sommes déjà à plus de 300 personnes qui viennent de rejoindre le parc des expositions et on est en situation de bien les accueillir après une nuit pour certains difficile.
Ouais, donc vous dites à ceux qui pourraient nous écouter sur la route et qui viennent de quitter le Cap Ferret qu'ils peuvent venir jusqu'à vous s'ils cherchent un point pour se reposer, tout simplement pour se mettre à l'abri.
Absolument, le hall 3 du parc des expositions, donc tout est en place. Je m'y suis rendu avec la préfète hier, il y a des volontaires, des agents de la métropole, tout est prévu pour bien les accueillir, qu'ils puissent y trouver un lieu de repos, de refuge, de la nourriture, aussi du réconfort, parce que j'ai pu voir hier les vacanciers qui étaient particulièrement déboussolés, ayant pour certains laissé leurs affaires personnelles dans les campings qu'ils ont évacués, donc ce qui permet aussi de leur donner des informations, de les rassurer. Donc voilà, toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui ont dû reprendre la route et qui ne savent pas où aller, ils peuvent s'arrêter au parc des expositions, c'est au bord de la rocade, à l'entrée de Bordeaux.
Thomas Cazenave, vous êtes en lien, j'imagine, avec les élus locaux, peut-être avec les autorités, les services de secours qui sont sur place dans la zone de l'incendie. Qu'est-ce qui vous remonte ce matin de l'inquiétude sur place?
J'ai suivi cette nuit parce que nous avons reçu notamment les informations de l'évacuation, des ordres progressifs d'évacuation de la presqu'île, qui a commencé par les quelques premiers villages de la presqu'île, puis plus tard dans la nuit toute la presqu'île. J'ai eu le maire de l'Esch-Cap-Ferret hier soir pour voir avec lui s'il avait d'autres besoins, y compris si on avait besoin de mettre en place un service de bus, mobiliser les bus de la métropole pour aller chercher celles et ceux qui n'ont pas de voiture. Donc on est en lien permanent avec les élus, services de l'État. Il y a une très très grande solidarité.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent de la situation de l'incendie? Il y a une réelle inquiétude pour les zones pavillonnaires de cette région qui est très habitée, très touristique surtout.
Oui, oui, il y a une vraie inquiétude. Il faut voir la vitesse de progression du feu, la grande mobilisation des moyens des pompiers, hein, qui est impressionnante ici, mais avec des conditions météo difficiles, du vent hier soir, une situation de sécheresse extrême dans le massif forestier font que le combat contre le feu est difficile, hein, de l'aveu même des pompiers, mais je peux vous dire qu'ils sont extrêmement mobilisés. Tout ça se fait avec beaucoup de professionnalisme aussi, il n'y a pas de panique.
C'est des scénarios qui avaient été préparés, anticipés ?
Ah ben s'agissant de la presqu'île et des risques d'évacuation, oui, parce que le risque incendie est quand même bien connu dans notre région, et donc avec les services de l'État, services des pompiers, chacun à sa place, on met en place un ensemble de réponses. Vous voyez par exemple l'ouverture du parc des expositions fait partie de notre réponse en cas de crise, donc ça se fait de manière assez méthodique. Voilà, sans panique, il faut quand même le dire, mais de manière ordonnée. C'est ce qui est en train de se passer avec l'évacuation de la presqu'île.
Merci beaucoup. Merci Thomas Cazenave d'avoir été en direct ce matin avec nous. On le redit, donc le parc des expos de Bordeaux qui est donc ouvert pour toutes ces personnes et notamment ces vacanciers qui sont en train en ce moment même d'évacuer la presqu'île du Cap Ferret. Thomas Cazenave, maire de Bordeaux. Merci à vous. On est en ligne avec Nathalie qui nous a appelé, qui a composé le 32-16. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour.
Merci de nous appeler. Je vois que vous avez dû évacuer votre camping. Vous faites partie des gens qui sont ce matin sur la route pour quitter cette région.
Oui, tout à fait. Oui, on a pris la route. On nous a fait évacuer à 22h le camping à Parentis en Borne. Et puis du coup, on a été dirigé directement vers un gymnase. Mais bon, tellement de monde, et puis du coup on est rentré à notre domicile du coup avec les accords des organisateurs directement.
Votre domicile qui se situe où ?
Dans le Maine-et-Loire, on est à Angers.
Vous êtes rentré à Angers.
On vient tout juste d'arriver il y a un quart d'heure.
D'accord. Donc pour vous les vacances sont terminées ?
Elles sont terminées, bon, une journée en avance, mais c'est moindre mal au vu de certains qui venaient d'arriver il y a quelques heures à nos côtés, en fait.
Racontez-nous comment s'est passée cette évacuation au camping, puis sur la route. Est-ce que ça s'est fait dans le calme ? Est-ce qu'il y avait un peu de panique ? Est-ce que tout est saturé sur les routes parce que tout le monde prend la route ?
Alors tout s'est très très bien passé parce qu'on a eu une très bonne organisation de par le camping, en fait. Dans le calme, on a été averti mobilhome par mobilhome de commencer à préparer nos affaires. Et puis du coup dès 22h, on a eu une petite alerte dans le calme aussi pour commencer à rassembler dans nos véhicules et de partir tranquillement vers le gymnase le plus proche. Accompagné du coup des militaires également qu'on a vu à la sortie du camping, les forces de l'ordre et les pompiers nous guidaient directement, mais ça s'est fait dans le calme et dans le respect c'était bon, assez éprouvant, hein, je peux vous dire le contraire, mais franchement tout le monde a géré correctement, c'était chouette.
Quelle était la situation ? Est-ce que l'incendie était très loin ? Est-ce que vous avez vu, j'imagine, des fumées à minima ?
Oui, tout à fait. Les fumées se rapprochaient. Nous, on était plus dans le sud toute la journée, dans de la famille. Du coup, au fur et à mesure qu'on remontait vers Biscarros, on se rendait compte, bien sûr, on avait entendu les informations, mais on se rendait compte que c'était de plus en plus proche du coup en arrivant. Et puis, en arrivant au camping, on a vu que les fumées étaient beaucoup plus déployées derrière, tout proche du lac où on résidait. Donc, c'est là que ça nous a quand même incité à préparer quelques bagages quand même pour pouvoir être prêts au cas où. Et puis, à 22h, ça nous a été annoncé, donc voilà.
Et retour à la maison.
Retour à la maison, voilà, tout à fait. Où nous avons croisé des tonnes de camions de pompiers, je suppose, venus
porter. Qui partaient en renfort.
Ah oui, mais sur l'autoroute, dans l'autre sens, en fait. Hein, donc je pense que c'est les équipes de Paris ou de d'ailleurs, mais on a pas mal croisé, du coup, donc en force à eux, du coup.
Oui, on pense à tous ces pompiers. Hein. Ce sont des centaines de pompiers qui sont mobilisés en Gironde et également dans les Landes. Merci beaucoup, Nathalie, pour votre témoignage. Nathalie, qui donc fait partie de ces vacanciers qui ont dû évacuer en urgence les campings de la zone. On est avec Jean-Baptiste, également au 32-16, du côté de la Teste de Buch en Gironde. On est tout près du bassin d'Arcachon, commune qui avait, d'ailleurs, la Teste de Buch était touchée par des incendies en 2022. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde.
Chez vous, ce sont des évacués qui arrivent, puisque vous êtes de l'autre côté du bassin ?
Oui, moi je suis sur la Teste de Buch, je travaille à Arcachon, et du coup, on voit du monde arriver par la côte. Moi je travaille le matin, donc à partir de 4h30. Ce matin, il y avait pas mal de rues qui donnaient accès au port et aux plages qui étaient bloquées. J'ai vu pas mal de navettes aussi de visite du bassin qui étaient réquisitionnées et qui servaient pour évacuer les gens. Un gros déplacement aussi des forces de police municipales et nationales avec des bateaux, des zodiacs, je pense, pour aider. Les pompiers aussi mobilisés énormément, de toute façon toute la journée, tous les jours, ils sont en vigilance dans les forêts à tourner tout le temps, donc que ce soit sur la Teste ou Arcachon et les alentours. Donc oui, on voit beaucoup de monde arriver, partir, et puis bon, c'est les vacances, il y a des gens qui viennent quand même aussi. On a eu l'incendie à Biscarrosse qui est pas très loin, c'est une demi-heure de route aussi, qui à cause d'un camion encore, comme en 2022, à cause d'un camion.
Vous retrouvez entre les deux, Jean-Baptiste.
On est au milieu, et puis on voit en face de chez nous, quoi, le Cap Ferré, tout qui est en train de cramer, le gros épais de nuages.
Vous noir, voyez la fumée.
Qui domine. Ouais, ce matin, j'ai fait 2-3 photos aussi avec le lever de soleil et juste à côté, en fait.
Image très impressionnante qui nous parviennent aussi. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour votre témoignage. 32-16, vous continuez de témoigner. 8h25, l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel Le Chypre, et est-ce que justement on a déjà une idée, Emmanuel, des conséquences économiques des incendies qui ravagent la France?
Bah, c'est des incendies records. À ce stade de l'année, plus de 46 000 hectares ont déjà brûlé, c'est du jamais vu. Les conséquences économiques, elles sont nombreuses, à court comme à long terme. Il y a d'abord les coûts des secours. Les très grosses interventions comme Fontainebleau ou le Cap Ferret, c'est entre 10 et 12 millions d'euros. Il y a l'impact touristique sur la saison et sur les saisons suivantes. La fréquentation chute d'environ 40% l'année qui suit des incendies dans une région. Après les incendies d'Arcachon en 2022, le secteur du tourisme avait perdu plusieurs centaines de millions d'euros. Il y a les pertes d'activité pour les entreprises, les commerces, les exploitations agricoles, la filière bois, plusieurs dizaines de millions d'euros de pertes. Il y a aussi l'indemnisation des assurances. Il faut savoir qu'une maison incendiée, en moyenne, bien sûr, c'est 15 000 euros d'indemnité. C'est le sinistre le plus coûteux pour les assureurs.
Est-il possible de mesurer le coût, cette fois pour l'environnement?
Oui, alors les économistes essaient de plus en plus de mesurer le coût de ce capital naturel détruit, selon leurs propres termes. Les émissions de CO2 à cause des feux, par exemple, c'est 200 millions d'euros. Les pertes pour la biodiversité, la régulation de l'eau, le dérèglement des écosystèmes, tout ça coûte aussi très cher. Le reboisement, c'est entre 3 000 et 8 000 euros par hectare. Il faut rappeler que plus de la moitié du PIB mondial dépend des services rendus par la nature, comme disent les experts. Donc, il y a les coûts visibles. À court terme, c'est sans doute 1 à 2 milliards d'euros, et les coûts invisibles, qui sont encore plus élevés.
Allez, on termine avec les chiffres habituels, les chiffres des prix de l'énergie.
Ça continue de monter. Le gazole à 2,16 € le litre. Le sans-plomb 95 à 2,02 €. Le pétrole, on touche à nouveau les 100 $ le baril. Et le gaz est à 63 € le mégawattheure. C'est un record depuis le début de la crise.
Merci Manu. 8h27. Dans un instant, la météo et le journal. Il est 8h30, presque 8h30.
RMC, Apolline Matin.
Et tout de suite, c'est l'heure d'un nouveau journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Les pompiers face à des incendies apocalyptiques en Gironde et dans les Landes. Plus de 8700 hectares brûlés au nord du bassin d'Arcachon et plus de 2500 à Biscarrosse. Et des évacuations massives, notamment la presqu'île du Cap Ferré. La France appelle l'Europe à la rescousse face à ces incendies hors normes. Des renforts attendus dans les prochaines heures. Et le peloton du Tour de France à bout de force face au mur de l'Alpe d'Huez.
Le cauchemar pour des milliers de personnes en Gironde.
Les images sont impressionnantes, effrayantes. Un mur de flammes ravage le nord du bassin d'Arcachon. Un feu hors de contrôle. Plus de 8 700 hectares brûlés depuis hier et près de 20 000 touristes, habitants, obligés de fuir leur maison. Et le Cap Ferré est concerné. Des évacuations sont en cours par la route, mais Lucas Laubert également par la mer.
Oui, depuis 7h ce matin, des navettes maritimes font des allers-retours entre quatre jetées de la presqu'île et le port d'Arcachon où plus de 400 personnes sont déjà arrivées. Priorité à ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion. Pour les emmener du bout de la presqu'île vers les bateaux, des bus du réseau de transport de l'Aige-Cap-Ferré sont réquisitionnés. Le préfet de Gironde a également pris un arrêté pour interdire la navigation dans le bassin d'Arcachon et laisser place aux évacuations. Toute la presqu'île est évacuée suivant un plan d'évacuation minutieux et élaboré après les incendies exceptionnels de 2022 en Gironde. C'est la première fois qu'il est mis en œuvre. En parallèle des évacuations par voie maritime, les personnes qui le peuvent doivent quitter les lieux en empruntant la route départementale vers le nord du bassin, et ce immédiatement car le feu progresse. Dans la nuit, le nombre d'hectares brûlés a presque doublé, atteignant 8700 hectares.
Lucas Laubert, une situation dantesque également dans les Landes. Voilà comment qualifient les pompiers l'incendie qui sévit actuellement à Biscarros. Ils parlent d'un feu apocalyptique, plus de 2500 hectares brûlés, 23 000 personnes ont dû fuir leur domicile ces dernières heures, notamment vers les plages. C'est le cas de Virginie et Christophe qui logeaient dans un des campings évacués que notre envoyé spécial RMC, Léonie Guilbault, a rencontré ce matin.
J'ai demandé si on avait un petit peu de temps pour préparer les affaires et ils nous ont répondu « vous évacuez dès que possible ». On pensait ne rien craindre puisque c'était quand même assez éloigné du lac. Puis finalement, pour les fumées toxiques, apparemment, ils ont préféré que tout le quartier de Navarros évacue.
On a pris l'ordinateur, les téléphones, les papiers, les passeports, voilà, au plus vite quoi.
Franchement, trois fois rien quoi, une tenue de rechange et puis c'est tout quoi. On est plus angoissé qu'autre chose, voilà, on n'a qu'une envie, c'est vite partir.
Trois nouveaux lieux d'accueil ouverts aux sinistrés ce matin, notamment l'église de Biscarros, plage ou encore l'ancienne gendarmerie de la plage. Un camion en panne qui a pris le feu hier près d'une forêt serait à l'origine de cet incendie. Le Var brûle toujours également. L'incendie dans le secteur de Cotignac n'est toujours pas fixé ce matin. 2700 hectares brûlés depuis mardi et de nombreuses reprises du feu hier. Certains habitants ont pu regagner leur domicile avant d'être une nouvelle fois évacués. Notre envoyé spécial RMC, Célestin Bougère, est allé à leur rencontre.
Avec son mari, Sylvie salue les bénévoles réunis devant la salle des fêtes.
Nous revoilà ici pour la deuxième fois.
À peine rentrée chez elle, les flammes se sont rapprochées de nouveau quelques heures plus tard. Elle vient d'être évacuée pour la deuxième fois en trois jours.
Maintenant, j'espère que ça va aller, quoi.
C'est parce qu'on revient une première fois, on se dit, bon, soulagement un petit peu de voir qu'il n'y a rien. Et là, ça repart.
Ah non, oui, franchement, j'en aurais pleuré. Hein. Et j'avais perdu mon chat. Il est revenu, mais là, elle est encore dehors, alors on verra bien.
Il y a un peu d'épuisement, j'imagine, au bout de trois jours.
Épuisement, de l'énervement. On attend des nouvelles pour entrer.
Des allers-retours qui épuisent et qui inquiètent les habitants. Depuis l'entrée de la salle des fêtes, on aperçoit derrière les arbres une fumée épaisse. L'incendie reprend alors de la vigueur. Esterina vient d'évacuer aussi pour la deuxième fois.
On a la chance que notre maison n'a rien eu du tout. À 50 mètres, c'est tout cramé. Mais on n'a aucune information, en fait. Ça qui est encore plus angoissant parce qu'on ne sait pas trop à qui se fier, quoi.
De ne pas savoir si sa maison a été touchée, c'est le plus dur pour ces habitants qui ont tous les yeux rivés sur leur téléphone en quête de la moindre information.
L'autre incendie du Var, qui a détruit près de 200 hectares le week-end dernier à Tarado-les-Arcs, près de Draguignan, serait d'origine criminelle. Un suspect a été identifié et activement recherché, un homme sur un scooter en train de mettre le feu à l'aide d'un bidon d'essence. C'est ce que nous apprend BFM Var.
Et des renforts sont en train d'arriver pour venir épauler les secours français.
Des flammes incontrôlables, des moyens français sous tension. La France se tourne vers l'Europe. Emmanuel Macron a demandé, Antoine Audion, l'activation du mécanisme européen de protection civile.
Oui, la France va pouvoir compter rapidement, selon le président de la République, sur deux Canadair croates, deux avions Air Tractor portugais. Ils peuvent larguer environ 3000 litres d'eau et deux hélicoptères lourds en provenance de Tchéquie et de Slovaquie, des Black Hawk bombardiers d'eau. Tous ces renforts, ils sont déployés dans le cadre du mécanisme européen de protection civile. Il existe depuis 2001 et il permet aux pays membres et à 10 autres pays partenaires de demander des renforts en cas de catastrophe. Depuis le début de la saison des feux de forêt, la France l'a déjà activé à plusieurs reprises dans les Pyrénées-Orientales ou dans la Drôme, par exemple. À l'échelle européenne, cet été, 22 avions et 5 hélicoptères sont mobilisables pour aider les pays confrontés à des incendies et qui en font la demande.
Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes, suit attentivement la situation. Est actuellement au centre opérationnel de la gestion interministérielle des crises de Beauvau. Une prise de parole est prévue à l'issue de cette réunion. Des incendies également en Espagne. L'urgence nationale a été déclarée dans la région de Madrid et dans une autre province près de la capitale. Objectif, mobiliser plus de moyens pour lutter contre ces incendies. Incendies qui ont entraîné l'évacuation de 10 000 personnes. 32 000 hectares ont été ravagés en une semaine. Un concert gratuit d'Amir annulé pour des raisons de sécurité après des appels au boycott pro-palestinien sur les réseaux sociaux. Le collectif Union Palestine-Marseille a qualifié cette annulation de victoire de la mobilisation populaire. Le CRIF, lui, se dit profondément inquiet et dénonce une chasse aux artistes juifs.
Il est 8h35 et on part sur la route du Tour, le Tour qui entre dans le dur aujourd'hui.
J-3 avant Paris, mais l'heure de vérité a sonné. Deux arrivées inédites à l'Alpe d'Huez attendent un peloton à bout, marqué par la chaleur et un rythme infernal. Et aujourd'hui, Romain Asselin, les survivants vont devoir puiser dans leur dernière force.
Il n'y a qu'à voir la mine de certains à l'arrivée des étapes.
C'est de la survie, c'est mentalement, il faut être très fort.
Directeur sportif chez Astana, Yvon Le Danois trouve les coureurs bien plus épuisés que d'habitude à ce stade de la course.
Il y en a déjà 85% qui le sont, pour pas dire 95%, donc ou voire même 100%.
Benjamin Thomas le constate en montagne, dans le groupe Eto à l'arrière de la course.
Des fois, on est 90-100 coureurs, c'est du jamais vu. On voit beaucoup de coureurs malades, et là, le moindre petit virus, le moindre petit rhume, ça peut vite t'amener à la maison. Derrière, tout le monde est cuit, quoi. C'est un peu atypique, mais ça vient du fait que les débuts de course sont de plus en plus intenses.
Plus de 44 km/h de moyenne depuis début juillet. Le peloton est sur les bases du Tour de France le plus rapide de l'histoire. Et une chaleur qui dure. Kevin Vauclin était lessivé hier à l'arrivée.
Sensation de merde. J'avais mal à la tête et tout, là. C'était horrible. Je suis embattu avec moi-même. J'ai vraiment envie de faire belle figure à Paris. Mais bon, avant de parler de Paris, il faut que j'aille être.
Car il reste deux ascensions de l'Alpe d'Huez à surmonter d'ici dimanche pour le peloton et Alex Baudin.
On commence à être tous morts, donc on verra ce qui reste pour les deux derniers jours, mais ça va être dur.
La souffrance.
Le prix à payer pour rallier les Champs-Élysées.
Intégral Tour dès 14h sur RMC.
Le Quintet, c'est à Cabourg aujourd'hui à 20h15.
Et le pronostic de Mathieu Zaccanini, son favori, le 7 Kéops Bégonia, son outsider, le 11 Kénor des Bois.
Merci, c'était le journal de Clément Gouitz sur RMC. Il est 8h37.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, on retourne en Gironde où des milliers de personnes sont en train de fuir, d'évacuer la presqu'île du Cap Ferré. On est à 8700 hectares brûlés. Il y a des centaines d'évacués aussi par bateau. Vos témoignages dans un instant au 32-16. On sera aussi en ligne avec le maire d'Arcachon. On est déjà en ligne avec Julia Delage qui est avec nous. Bonjour Julia.
Bonjour.
Julia Delage qui est la directrice adjointe de la rédaction de BFM TV. En vacances dans la zone et en train d'être évacué. Vous allez nous raconter dans un tout petit instant. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h40 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Et nous suivons depuis tôt ce matin, minute par minute, la situation en Gironde, dans les Landes également, où des milliers de personnes sont en train de fuir des zones très touristiques et remplies de vacanciers. C'est le cas du côté de Biscarrosse, où la consigne a été donnée au cœur de la nuit d'aller se réfugier sur la plage. C'est le cas évidemment du côté du Cap Ferré. Là, ce sont des milliers de personnes qui fuient à la fois par bateau et par la route, cette presqu'île qui borde le bassin d'Arcachon. On est en ligne avec Julia Delage. Rebonjour Julia.
Bonjour.
Directrice adjointe de la rédaction de nos voisins et confrères de BFM TV. Julia, vous êtes en train de fuir. On vous a donné la consigne cette nuit d'évacuer la presqu'île où vous étiez en vacances.
Oui, exactement. C'est un message qui nous a réveillés vers 6h20, 6h23 exactement. Et c'est un message de faire alerte, hein, donc grosse sonnerie. Et ensuite, lorsqu'on lit le message, il fallait évacuer la presqu'île dans les meilleurs délais. Le message donnait des indications, donc une voie terrestre, donc la fameuse D106, hein, cette unique route qui permet de sortir de la presqu'île. Et puis sinon, on pouvait aussi se rendre à différents points autour du bassin pour partir direction Arcachon via des bateaux.
Et vous avez pris la route ?
Exactement, on a pris la route, donc on a traversé la presqu'île. Impressionnant, plus on s'acheminait vers la sortie, plus on voyait de gendarmes qui commencent vraiment à faire des rondes dans toute la presqu'île pour s'assurer que l'ordre d'évacuation est bien respecté. Et impressionnant aussi, juste en sortant de Claouet, un village donc juste vraiment à la sortie de la presqu'île en direction de Bordeaux, on a vu vraiment de nombreux pompiers s'atteler, et avec aussi des engins de chantier évidemment pour brasser le sable. Et là, on vient de sortir, on est au niveau d'Arès. Et là, vraiment, en ce moment même, juste derrière les pins, on voit le feu qui est à quelques centaines de mètres de la route, qui donc sort du Gap Ferret et se dirige vers Arès.
Là, vous voyez les flammes depuis la route.
Ouais, ouais, là, on les voit. Alors, ouais. Depuis la route, on les voit. Elles sont à plusieurs centaines de mètres, mais on les voit clairement. Il y a d'ailleurs des gens qui sont arrêtés pour prendre des photos. Les gendarmes surveillent tout ça. Et en effet, à chaque rond-point, il y a et la gendarmerie et des pompiers qui se relèvent en fait et qui font des tournées pour retourner sur le front du feu.
Et comment ça se passe sur la route? Est-ce que les axes, vous le disiez, il y a une seule route pour sortir de la presqu'île, c'est complètement saturé ou ça avance dans le calme?
Non, au début c'était vraiment, on était complètement à l'arrêt et puis au fur et à mesure, ça roule tout doucement, on roule au pas, mais ça commence à rouler tranquillement et là franchement à la sortie de la presqu'île, ça roule normalement.
Ouais, vous sentez sur place que c'est un scénario qui avait été anticipé, qui avait été préparé avec, vous le disiez, des points déjà prévus pour aller prendre d'éventuels bateaux.
Oui, et puis les gens étaient très calmes, mais avaient quand même un tout petit peu anticipé dès hier déjà. On voyait les gens qui avaient fait leur bagage, rempli leur voiture, sans partir forcément. Hein. Nous-mêmes, on avait tout paqué au cas où. Et donc, quand ce message est tombé, finalement, on a tout mis dans la voiture et puis on est parti tranquillement. Mais franchement, sur le chemin, pour le coup, les forces de l'ordre ont assez bien encadré les choses. Il y a des motards qui font des allers-retours régulièrement, un pour vérifier qu'il n'y a plus personne dans les maisons et puis aussi pour voir si personne ne s'arrête sur la route. C'est pour le coup ça assez bien encadré.
Ouais, merci beaucoup Julia Delage pour ce témoignage en direct. Julia Delage, notre consoeur, collègue de BFM TV en vacances dans la zone et qui est en train donc de fuir par la route sur cette unique route qui sort de la presqu'île du Cap Ferret et qui nous dit que les flammes sont à peine à quelques centaines de mètres de cette route qui est essentielle pour permettre aux habitants et aux vacanciers de quitter la zone. On est avec Stéphane qui est avec nous au 32-16. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Stéphane, vous, c'est un membre de votre famille, c'est ça qui a évacué cette nuit?
Femme, ouais. Qui a été évacué à 3h30 de Claoué.
Donc sur la presqu'île, voilà.
C'est le premier village juste après Arès. Voilà, et donc ils ont été évacués à 3h30, ils voulaient pas au départ, puis après ils ont été obligés. Et voilà, mais lui, il s'est insurgé depuis, c'est un habitant, hein, lui c'est sa maison principale,
à donc
il avait préparé les... Ouais, voilà, c'est pas des vacanciers, hein, donc ils sont allés dans la famille sur Andernos, voilà, pour attendre, et donc ils en savent pas plus de savoir quand c'est qu'ils pourront réintégrer les maisons.
C'est leur maison, vous le disiez, c'est pas tout à fait la même chose quand on est en vacances quelque part ou quand c'est son domicile. J'imagine qu'il y a une inquiétude terrible de savoir ce qui va se passer dans les toutes prochaines heures.
Ben ils sont inquiets, oui forcément ils sont inquiets, et puis c'est surtout que là où ils sont un petit peu en colère, c'est que rien n'est fait par rapport à cette presqu'île où ça passe de 15 000 habitants l'hiver à 120 000 l'été avec une seule route. On trouve ça complètement aberrant. Ils appellent ça la souricière, c'est-à-dire que quand vous êtes là-dedans et qu'il y a quelque chose qui arrive, vous êtes pris au piège. Donc il y a qu'une seule route pour 120 000 personnes.
Et effectivement, d'où cette évacuation qui pour l'instant est une précaution, hein. La presqu'île n'est pas en train de brûler, mais le feu menace et s'en approche. Il a d'ailleurs, il y a déjà des habitations au nord de cette presqu'île qui ont brûlé, et les autorités ont décidé par précaution de tout évacuer parce qu'effectivement il y a des dizaines de milliers de personnes l'été et de touristes, et qu'il faut évacuer à la fois par cette route unique et à la fois par la mer, par le bassin d'Arcachon par bateau. Merci pour votre témoignage Stéphane. Il est 8h47 et dans un instant on sera justement en ligne avec le maire d'Arcachon, juste de l'autre côté du bassin, qui est en train lui-même d'accueillir les évacués qui ont quitté la presqu'île du Cap Ferret par bateau. À tout de suite sur RMC, 8h47.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h49, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Situation cauchemardesque, apocalyptique, disent les pompiers en Gironde et dans les Landes ce matin. L'alerte est tombée au cœur de la nuit pour tous les vacanciers qui se trouvent et les habitants hein, qui se trouvent sur la presqu'île du Cap Ferret au bord du bassin d'Arcachon. Il faut évacuer, des évacuations par bateau avec des centaines de personnes qui montent sur des bateaux, des évacuations par la route. Plusieurs témoignages depuis ce matin sur RMC de ces vacanciers qui ont dû prendre la route en urgence au cœur de la nuit. Julia Delage était avec nous pour nous le raconter. Nathalie, tout à l'heure, qui a dû rentrer chez elle jusque dans le Maine-et-Loire. On est à 8700 hectares brûlés en Gironde. Et puis il y a cet autre incendie au sud du bassin d'Arcachon, cette fois dans le département des Landes, à côté de Biscarrosse. Et là aussi, on a évacué plus de 20 000 personnes durant la nuit avec la consigne d'aller se réfugier sur la plage parce que là aussi l'incendie menace des habitations, beaucoup de vent et une sécheresse évidemment terrible, un cocktail explosif dans ces départements. Vous continuez de nous appeler au 3216 pour témoigner. Vous nous écrivez sur le WhatsApp RMC, on a beaucoup de messages ce matin, Victor.
Et beaucoup de messages qui expriment leur inquiétude évidemment, leurs hommages aux personnes qui sont prises dans ces incendies et dans ces flammes. Et puis comme Stéphane qui vient de nous appeler juste avant la pub et qui nous disait, il y a de la colère aussi sur place, de la colère de se dire que les infrastructures ne sont pas toujours prêtes, qu'il n'y a qu'une seule route pour évacuer en ce moment même cette presqu'île du Cap Ferret. C'est un petit peu ce que nous dit un message qui n'est pas signé, un message qui est anonyme et qui nous dit mais pourquoi on ne réquisitionne pas des citernes un peu partout pour aider au maximum les pompiers, des citernes qui auraient des capacités d'eau et qui pourraient aider ces soldats du feu qui sont sur le front de ces incendies. On a aussi Charlie qui nous dit qu'il est vraiment révolté par ce qui est en train d'arriver. Il nous dit, texto, hein, ce qui devait arriver arriva, notre forêt, je la pleure. Il nous dit, alors oui, pour l'instant, il n'y a aucune victime à déplorer. Évidemment, sur RMC, on vous tiendra au courant minute par minute de l'avancée des informations que l'on a. Oui, aucune victime, nous dit Charlie, mais notre faune, elle, notre flore se meurt sous nos yeux. Et on pourra reconstruire après, certes, mais ce sera extrêmement compliqué. Il ajoute, Charlie, dans sa colère, ce monde me dégoûte. On a aussi d'autres témoignages de gens qui pensent à leurs proches qui sont sur place. Nous avons par exemple Christian qui nous dit qu'il a une pensée pour sa tante, pour son oncle qui habite à la Teste de Buch, là aussi largement ravagé par les incendies. Souvenez-vous, c'était en 2022. Il a une pensée pour eux et il nous dit le bassin d'Arcachon a nouveau ravagé. Il faut absolument trouver les responsables. Et enfin, on a Thierry qui nous dit que voilà, beaucoup de ces forêts sont dévastées et que pour lui c'est l'émotion qui prime. Les mots lui manquent, c'est ce qu'il nous écrit.
Ouais, je crois qu'on est tous très marqués, impressionnés par les images qui nous parviennent. On a une pensée évidemment pour tous les pompiers qui sont sur le front. On est en ligne avec Yves Foulon qui est le maire d'Arcachon. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour monsieur.
Merci d'être avec nous en direct. On imagine que vous êtes sur le pont depuis très très tôt ce matin, voire toute la nuit. Et là, vous êtes en train d'accueillir du côté d'Arcachon, donc en face du Cap Ferret, de l'autre côté du bassin, les évacués qui ont quitté le Cap Ferret par bateau.
Oui, on est opérationnel depuis 6h ce matin. Donc les premiers bateaux sont arrivés à 7h et on a à peu près 800 personnes qui sont accueillies ici au Palais des Congrès, puisque ils arrivent à la jetée de pierre, on les amène au Palais des Congrès où ils peuvent prendre un petit déjeuner, puis ensuite on les oriente. Alors beaucoup se dirigent vers la gare d'Arcachon pour ensuite regagner Bordeaux, il y a un train toutes les heures. Beaucoup ont des amis ou de la famille qui les prennent en charge directement à Arcachon. Et finalement, sur les 800 déjà accueillis, on a 15 personnes que l'on va loger ici à Arcachon. On fait ça en relation avec les trois autres communes du Sud-Bassin, la Teste, Gujan et le Teche. En fait, on a une capacité d'accueil pour dormir à hauteur de 1200, mais là, il est 9h ce matin, on en a 15 qui souhaitent rester dormir.
Ce sont principalement des vacanciers, j'imagine, beaucoup de familles.
Des vacanciers, oui. Alors certains étaient à l'hôtel au Cap Ferret, d'autres, alors ils sont avec leurs valises, d'autres avaient des locations. et ils espèrent regagner le Cap Ferret dans les jours qui viennent pour récupérer leurs bagages et leurs vêtements et leurs effets personnels. Et ça, on ne sait pas leur dire quand ils vont pouvoir repartir au Cap Ferret pour reprendre leurs affaires. Donc ça se passe bien, c'est douloureux parce que ils sont choqués d'avoir été évacués assez brutalement dans la nuit. C'est choquant pour des raisons que l'on peut comprendre.
Merci beaucoup pour d'avoir été avec nous en direct. Yves Foulon, maire d'Arcachon. Donc vous nous dites ce matin 800 personnes, hein, 800 personnes qui ont quitté par bateau le Cap Ferret, qui sont arrivées à Arcachon, en plus de des milliers de personnes qui ont pris la route ces dernières heures pour quitter cette presqu'île du Cap Ferret qui est toujours menacée par les flammes. Les reporters d'RMC, bien sûr, sur le terrain depuis très tôt ce matin. Merci à eux et à toutes les équipes d'RMC. C'est l'heure des grandes gueules avec Olivier Truchot qui s'installe. Bonjour Olivier. Sébastien,
bonjour à tous. Effectivement, les grandes gueules qui sont assez effrayées par ces images des incendies monstres en Gironde et dans les Landes, avec des vacanciers qui sont obligés de tout quitter, avec des habitants qui ont été évacués. Doit-on craindre le pire cet été avec ces incendies? On en parlera dans les grandes gueules et avec vous, bien sûr, au 32-16. Et puis on reviendra sur ce que dit Gabriel Attal, le candidat Attal qui est en Bretagne en ce moment. Il estime que l'écart entre le net et le brut sur nos salaires est devenu un scandale français. Voilà ce qu'il dit, il a des propositions à faire. Il sera avec nous par téléphone. On l'appellera depuis la Bretagne dans les Grandes Gueules. Donc restez bien fidèles à 9h sur RMC et RMC Story.
Les Grandes Gueules dans un instant. Et nous on vous dit à lundi pour Apolline Matin. Très bonne journée.